Alors un bobsleigh, c'est un push-cart, les 4 roues en moins.
Tête de vainqueur.
C'est assez spécial, il va y avoir du sport.
Pourquoi tu déguises pas en femme de footballeur?
L'émission sport de Radio Campus Paris.
Oh là 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 là, c'est fabuleux. Je me tais, c'est trop beau.
Un vendredi par mois, 20h.
Il y a une belle tête de vainqueur.
Il y a tellement de sujets dont j'avais envie de vous parler ce soir. Les deux matchs décisifs de l'équipe de France ce week-end pour la qualification en Coupe du Monde. Le genou à terre des footballeurs américains en signe de protestation à la politique de Trump ou encore de Paris, ville haute des Jeux en 2024. Et ce sont surtout des sujets sur lesquels nous reviendrons tout au long de l'année. Non, avec le retour du froid, j'avais envie de nous réchauffer un peu en revenant à l'été. Souvenir de juillet sur la route du Tour de France et le regard hagard de Romain Bardet déchu de sa deuxième place après le contre-la-montre de Marseille. Et du mois d'août aussi est l'arrivée de Neymar au PSG. Souvenez-vous, après un feuilleton rocambolesque, le Brésilien s'engage avec le club de la capitale en payant la somme de 222 millions d'euros à Barcelone, montant de la clause libératoire du joueur. Alors pour faire court, le Qatar propriétaire du PSG a donné cette somme d'argent à Neymar qui lui-même a réglé sa dette au club catalan. Un arrangement qui a dû faire bondir Michel Platini, porteur du fair play financier en 2011. Bref, le PSG n'a rien payé si ce n'est le salaire. Pas des moindres 30 millions d'euros par an selon certaines estimations et une prime à la signature de 80 millions soit un total de plus de 200 millions sur 5 ans, rien que ça. Alors oui, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, il a peut-être déjà enflammé le parc et les pelouses de France, c'est peut-être rentable à la vente de maillots, mais ça fait beaucoup pour un joueur si talentueux et sympathique soit-il. Alors le mercato touche le sport mais aussi les médias et pour cette nouvelle année on a misé sur de jeunes talents en tête de vainqueurs issus du centre de formation de Radio Campus Paris. Si on ne met pas beaucoup d'argent voire pas du tout sur ces derniers, on croit en eux. Les nouvelles recrues suscitent beaucoup d'espoir. Souhaitons-leur bonne chance et réussite. Oui, en tant que coach, je fais monter la pression avant leur première prise de parole. On change aussi de tactique avec de nouvelles chroniques, de nouveaux rendez-vous et de nombreux sujets toujours plus passionnants les uns que les autres. Le sport à travers le prisme sociétal, c'est notre credo dans Tête de vainqueur. Et pour cette première manche de la saison 2, loin du sport business, on s'interroge. La ville est-elle un terrain de sport? Les joggeurs ne vous diront pas le contraire. Nous aurions pu inviter un quadra pratiquant le marathon depuis 2012, mangeant des pistaches et des baies de goji. Dernier Azix au pied, non, c'était trop facile. On s'est creusé les méninges. Saviez-vous par exemple qu'il existe des pratiquants de polo vélo? Alors oui, c'est pas commun, mais nous n'en parlerons pas ce soir. Le sport que nous allons évoquer, vous l'avez vu dans des publicités à la télé, mais aussi au cinéma. Yamakasi, banlieue 13 et même James Bond. Vous voyez de quoi je veux parler, mais vous ne pouvez pas mettre de nom dessus. Il s'agit du parcours. Et pour nous en parler ce soir, Flore Magnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pratiquante de ce sport et coach pour l'association Pink Parcours, plus institutionnelle cette fois. La mairie de Paris met à disposition des citoyens de la capitale de multiples infrastructures sportives. Certaines sont gratuites. Notre invité, le conseiller technique de Jean-François Martin, s'adjoint à la mairie de Paris en charge du sport et du tourisme. Bonsoir Boris Vassot.
Bonsoir.
Laissez-moi maintenant vous présenter les joueurs de la deuxième saison de Tête de vainqueur. Il était là l'an dernier, capitaine de la team, le Neymar de la radio m'accompagne à l'interview ce soir. Bonsoir Erwan.
Quelle présentation, je suis flatté. Bonsoir Thibaut. Bonsoir.
Et cette année, tu nous proposes aussi une nouvelle chronique.
Exactement, on va parler sport et musique, comment les deux sont liés et on développera ça un petit peu tout à l'heure.
Elle fait partie des nouvelles recrues dont je vous parlais tout à l'heure. Son hobby, c'est la course à travers les salles de spectacle parisiennes. Elodie nous dressera la sport et le culture. Autre recrue, elle pratique régulièrement la brasse coulée sur 25 mètres. À la fin de l'année, elle sera multisport et va partir pour nous en immersion tout au long de l'année, explorer de multiples sports qui n'ont pas forcément de place dans les médias. Philippine, bonsoir.
Bonsoir.
Un homme d'expérience maintenant à Radio Campus Paris. Il a été l'un des premiers à rejoindre l'aventure de Tête de vainqueur, même s'il n'a pas encore l'âge de la maturité. Il a la majorité. Il fête ses 18 ans ce soir. Bon anniversaire à notre Rémi, réalisateur.
Bonsoir Thibault.
Trêve de plaisanterie, la ville, terrain de sport, c'est le thème de la rentrée de Tête de vainqueur. Et c'est tout de suite.
Oh, j'ai l'épilé de mon critérium.
Tête de vainqueur.
Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh.
L'émission sport de Radio Campus Paris.
Flore Magnier, Boris Vassot, que vous évoque la pratique sportive en ville. Flore Magnier.
Eh bien, pour moi, ça évoque le parcours. Et
le sport que vous pratiquez.
Exactement.
On y reviendra.
Oui. Et ça évoque énormément de personnes qui, justement... sont amenés à utiliser la ville pour s'amuser.
Boris Vassot.
Moi je fais partie des quadras avec Azix au pied, donc
désolé,
ça
m'évoque
le running. Et de 40, voilà, 40 ans. Et puis surtout professionnellement, ça m'évoque à la mairie de Paris un vrai enjeu pour nous. Donc on va parler dans les prochaines minutes.
Et le sport en ville est-il le moyen le plus simple de pratiquer?
Ouais.
Oui.
Oui, d'accord. Et vous ne vous développez pas? C'est dans la pratique, dans la manière de faire
Je dirais que c'est le plus simple parce que c'est un bas de chez soi. Après, c'est quelque chose qui n'est pas encore commun. Donc, ce n'est pas le plus simple et le plus évident. On a l'habitude des gymnases, on a l'habitude des terrains de foot. Donc, il faut habituer, et ça c'est notre rôle aussi à la ville de Paris, à développer les infrastructures et puis surtout petit à petit à faire venir les gens. Heureusement, on est porté, comme Flore, par un paquet d'associations qui, eux, déjà développent leurs trucs et donc amènent d'autres gens. Et nous, on est plutôt à écouter le mouvement, à le sentir et à développer, à essayer toujours de l'innover. Mais c'est simple, mais il faut emmener les gens pour découvrir tout ça.
Et justement, parce que quand on se dit aller faire du sport dans la rue, c'est pas forcément une démarche très facile. On sort dans un espace où les gens circulent pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, et qui n'est pas toujours forcément pensé pour ça. Comment justement on le pense pour les sportifs et pour donner envie aux gens d'aller pratiquer le sport dans la rue?
C'est une vraie question et c'est mon job depuis 3 ans en fait à la mairie de Paris. Parce qu'on a une double problématique à Paris, c'est qu'à la fois on a de moins en moins de pognon, comme tout le monde le sait, et ça coûte très cher un gymnase et une piscine, de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros, et à la fois c'est la quatrième ville la plus dense du monde, donc on a envie de faire du sport dans la rue, parce que justement c'est en bas de chez soi, et ça pourrait permettre une pratique autonome, qui est de plus en plus importante pour les gens, mais où on la met? Et voilà, donc l'enjeu maintenant c'est de savoir comment on fait, donc on sait les besoins, énorme, et on a commencé à construire une petite réflexion à voir où on avait des équipements, là où on en avait moins, et on a commencé à mettre du street workout, des playgrounds, et maintenant...
Qu'est-ce que c'est ça, du street workout, des playgrounds?
Street workout, c'est un truc qu'on a découvert après les pratiquants. Les pratiquants, au lieu d'aller dans une salle de muscu, ils vont faire de la muscu en pleine
D'accord.
rue.
D'accord, donc
c'est ce qu'on voit par exemple l'été, le soir, sur les quais ou encore au bassin de la Villette, qui viennent non pas pour boire, mais pour faire du jogging et se muscler. C'est un peu ça l'idée.
Exactement. Il y en avait 3 sites en début de mandature et on en a créé 8 de plus. En se disant, il y a quelque chose derrière, mais franchement, on n'avait aucune analyse de savoir si ça allait cartonner. Et en fait, chacun des sites, enfin, quand ils ne sont pas trop mal foutus, serait, trouve leur public, trouve une association, trouve des gens. Donc c'est vrai, c'est un pari de passer de 3 à 8 en 2 ans. Mmh. Et voilà, on a été encore impressionnés par les gens et par les sportifs comme cela.
Mais 8, ça paraît peu par rapport à l'échelle parisienne.
C'est une vraie question. Le souci du sport dans la ville, après, on en reparlera de la philosophie pour qu'on fait tout ça, pas pour des questions d'argent. C'est aussi qu'on peut... Le risque, ce qu'on veut surtout pas faire, c'est avoir un équipement sportif qui n'est pas utilisé. Il doit être adapté aux besoins et adapté ensuite à la pratique, c'est-à-dire dans des endroits où il n'y a pas trop de bagnoles, où c'est pas trop dangereux. Voilà, donc on ne peut pas en mettre partout où on voudrait. Par ailleurs, comme je vous dis, c'est la quatrième ville la plus dense du monde, donc il y a plein d'autres usages. Il y a les poussettes, il y a les piétons, il y a les vélos. Donc nous, il faut en mettre beaucoup plus de façon intelligente. Mais en même temps, le sport est aussi un moyen pour nous et un levier de reconquérir l'espace public. On essaie de le faire avec la piétonnisation sur les berges, qui a un petit peu de moins de voitures, mais maintenant le sport est aussi un moyen positif de se dire voilà, on a besoin d'avoir envie de faire du sport en bas de chez soi, et donc de d'avoir peut-être un peu moins de voitures, plus d'espace sur les places pour le sport, etc.
Flore, vous, aujourd'hui, vous pratiquez le parcours, donc on va détailler la pratique tout à l'heure, un petit peu plus loin dans l'émission, mais avant ça, comment vous avez-vous approché le sport en ville? Est-ce que vous étiez joggeuse? Est-ce que vous faisiez du vélo? Comment avez-vous commencé à vous dire dans la rue je vais faire autre chose que juste sortir marcher? Est-ce que vous couriez un petit peu avant?
Alors j'aime pas trop courir,
pas
clairement. Par contre, j'ai toujours fait du vélo. Du coup, l'approche de la ville par le vélo est assez intéressante.
Oui, complètement. Comment on se sent quand on fait du vélo en ville dans une grande ville comme Paris?
J'ai pas osé. Paris, j'ai pas osé. La Rochelle, ça se passe très très bien. Mais Paris, j'ai pas osé encore. Mais sinon, avant, je faisais beaucoup de breakdance. Et du coup, on était amené à utiliser l'espace
urbain aussi.
L'espace urbain, exactement, pour s'entraîner. Quand on n'a pas de salle, et ben, on va dehors.
On va dehors.
C'est le plus facile. Et donc, d'une certaine manière, ça a toujours été dehors que mon sport il se passait. Et quand on va faire du foot, c'est aussi dehors que ça se passe. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai été amenée à utiliser l'espace urbain.
Il y a peut-être aussi un petit côté, arrêtez-moi si je me trompe, mais un petit côté social à tout ça, le fait que justement on se retrouve pour faire du sport dans la rue, là où les gens passent, et on commence à connaître les gens qui habitent à côté, non ? Il y a une vie aussi qui vient de ce sport dans la rue ?
Ouais, tout à fait, et c'est aussi un vrai défi pour nous, dans le sens où l'espace public, il est ouvert à tout le monde, et pour nous, pour évoluer dans notre pratique, là je parle vraiment en termes de parcours, il faut faire attention à tout ce qu'il y a, il faut faire attention autant au matériel qu'aux personnes qui passent, qui donc sont ici, et il faut évoluer avec, et c'est toujours un vrai défi et intéressant en fait.
Une question à tous les deux, Erwan a soulevé un point important, en parlant du sport dans la ville et de la dangerosité, vous en avez parlé aussi Boris Vasson, on parle beaucoup de pollution, les particules fines, tout ça, c'est pas un peu dangereux finalement de faire du sport en extérieur comme ça, si proche des voitures ?
Je vais donner un exemple d'un truc qu'on a fait cette année. Alors déjà, les particules fines, malheureusement, elles sont aussi à l'intérieur et dans les gymnases, donc, et même dans le métro. Donc voilà, c'est une problématique parisienne. Vous savez qu'on est un petit peu engagé sur cette question à la maire de Paris. Elle se fait d'ailleurs largement critiquer, mais je trouve qu'elle est extrêmement courageuse et elle a raison. Après, nous, on avait peur quand on a développé le sport dans la rue, justement, en se disant on va courir au milieu de la pollution. Et on a fait encore une nouvelle expérimentation, on ne savait pas comment ça allait marcher, de créer des parcours sportifs avec des agrès, des spots d'agrès sur 1,5 km. On est en train de le faire là entre Avron et Philippe Auguste. C'est sur le terre-plein central. Il y a une file de bagnoles à droite, une file de bagnoles à gauche. C'était un terre-plein qui était assez dégradé et donc on s'est dit, est-ce que le sport peut être une reconquête positive de l'espace public. Et c'est au milieu des bagnoles, et en fait, les gens le font, quoi. Et ça touche tout le monde, le vrai sportif qui veut pas aller à sa salle de muscu, mais aussi, et c'est ça notre intérêt à nous, celui qui habite juste dans l'immeuble d'à côté et qui a pas de pognon pour aller dans une salle de sport et qui va découvrir, il va faire le premier pas, son premier exercice, et puis on a vu que c'était assez divers et on est assez content et on ne savait pas si ça allait marcher, mais pour l'instant ça marche bien.
Et il existe une concertation entre la mairie et les pratiquants parce que vous créez des parcs, vous créez des espaces, tout ça, mais qui vient vous voir pour vous dire ah ben moi j'aimerais bien que vous aménagez cet endroit ?
Alors déjà il y a le budget participatif, on a eu beaucoup de demandes de parisiens avec des équipements spécifiques. Après on voit assez régulièrement le mouvement sportif, typiquement pour les parcours sportifs on n'a pas vu toutes les disciplines, on connaît bien le milieu du skate. Je connais pas mal le milieu du parcours. On a créé la première salle indoor en régie de parcours en France, qui est à Central Park au niveau des Halles.
Châtelet.
À Châtelet, exactement. Et puis, typiquement, pour les parcours sportifs, on fait une vraie concertation avec le milieu du running pour savoir, pour que ce soit adapté avec leurs besoins. Ils avaient besoin aussi, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin évidemment de sanitaires, qu'ils avaient besoin de boire un petit peu d'eau, qu'il y ait une signalétique au sol, notamment 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres pour qu'ils fassent leur fractionné. Et ça, on l'a fait à la fois avec les clubs sportifs, les clubs d'athlètes, on l'a fait avec le mouvement sportif, on l'a fait aussi avec les marques qui maintenant ont des communautés de runners. Voilà, on a voulu essayer d'être très large. Ça nous a pris une matinée à l'hôtel de ville un samedi matin. Et le milieu sportif, c'est ça, c'est impressionnant. Ils sont toujours là même le samedi matin. Et donc voilà, on a essayé d'avoir quelques préconisations pour faire au mieux.
Une des choses qu'on aime bien quand on est runner, c'est courir évidemment dans des espaces verts. C'est toujours plaisant quand on a un parc à proximité de chez soi, ou même si on a un ou deux arrêts de métro, pour pouvoir y aller et courir. Et à Paris, malheureusement, on n'est pas une ville forcément très fournie en espaces verts par rapport à d'autres capitales européennes.
Par rapport à Londres, je vous
par rapport à Londres, par rapport à Rome.
À Londres, il y a quand même un grand espace au milieu, quand même.
C'est vachement plus grand, Londres, mais c'est vrai.
Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable d'augmenter les espaces verts à Paris ?
Oui, on va créer un grand parc, la Chapelle Charbon, donc 18e au niveau de la porte de la Chapelle. Un grand parc, je ne sais plus combien d'hectares. Mais il faut savoir par exemple que le Bois de Vincennes, le Bois de Boulogne, c'est deux parcs qui appartiennent à la ville
de Paris.
C'est vrai.
Et on va, ce parcours dont je vous parlais, la Nation Stalingrad, on va en profiter pour faire un site sur paris.fr où justement on va mettre les 10 gros parcours à Paris qui sont typiquement, comme vous avez dit, dans les bois, il y en a 4-5 dans les parcs et jardins. Montsouris, ça court beaucoup, les Buttes-Chaumont, ça court beaucoup, les Tuileries, ça court énormément aussi. Et évidemment, ce qui marche partout dans le monde, c'est autour des fleuves et des canaux. Donc, il y a la Seine et les canals de l'Ourcq.
Boris Vasso, Flore Magnier, on continue de s'interroger sur la ville, terrain de sport. Dans quelques minutes, pour l'heure, on repart en Norvège. On part en Norvège, tout simplement, avec Anna of the North. We'll be right back. Anna of the North sur Radio Campus Paris, c'était Fils. Merci de terminer la semaine en notre compagnie, les 20h19 sur Radio Campus Paris 93.9. La ville, terrain de sport, c'est la question que l'on se pose ce soir avec nos invités Flore Magnier, Boris Vasseau. Si je vous parle d'un sport qui peut se pratiquer en ville, à l'extérieur, à vocation olympique, savez-vous de quoi je parle ?
Le skate ?
Vous connaissez la réponse. Viens la réponse avec Philippe.
En plongée, 20 mètres.
En plongée, immersion 20 mètres.
Tête de vainqueur.
T'as fait du sport avec ton père.
J'aime pas le foot.
Radio Campus Paris 93.9.
Chaque mois, elle va tester pour nous des sports insolites ou ceux dont on ne parle que trop peu dans les médias. C'est l'une des nouvelles chroniques cette année, l'immersion de Philippine.
Ce soir, je vous emmène dans l'univers d'un sport que vous connaissez forcément. Les vrais se souviennent de l'or remporté à 3 reprises par Dylan Rochet en championnat du monde. Les autres vont fouiller dans leur mémoire le souvenir d'une douce soirée d'été à Nisette, sous les platanes. Si vous n'avez pas encore compris de quoi je parle, essayez alors de deviner. Mon but est de lancer une boule d'acier vers une boule de bois. Ma pratique se fait en doublette ou en triplette. Avec plus de 280 000 licenciés, c'est le 10e sport le plus pratiqué en France et ça fait ce bruit-là. Pour cette première émission, je vous embarque donc au cœur du 20e arrondissement de Paris, découvrir comment se pratique la pétanque. Alors avant toute chose, un peu d'histoire. Le jeu de boules remonte à l'époque de la Gaule. Les Lyonnais sont aussi passés par là, mais alors pourquoi les boules riment-elles si souvent avec pastis et cigales ? On pourrait penser que c'est grâce à l'œuvre de Marcel Pagnol, certes, ou encore au Mondial de la pétanque à Marseille, mais c'est à mi-chemin entre la cité phocéenne et Toulon que l'on trouve l'origine de la pétanque telle que nous la pratiquons aujourd'hui. À La Ciotat, plus précisément, là où au début du XXe siècle fut organisée la première compétition officielle. Depuis le temps, imaginez bien que certaines règles se sont un peu précisées. Alors je suis allée demander à Gaëlle, la secrétaire du club AMPS 20, de m'expliquer comment on joue vraiment.
Donc si on est en doublette, on a 3 boules par participant. Si c'est en triplette, c'est 2 boules par participant. Et celui qui est le plus loin du cochonnet rejoue. Donc plus on est proche du cochonnet, plus on gagne. Donc soit l'adversaire repointe et essaye de se rapprocher du cochonnet, soit il tire la boule de l'adversaire.
Et toi, tu es allé tester la pétanque pour nous, alors je ne peux pas faire autrement que de te demander, Philippine, tu tires ou tu pointes ?
Ah, qu'aurait été ma chronique sans cette question, Thibaut ? Déjà, il faut comprendre la différence. Pointer, ça veut dire placer une boule près du cochonnet en la faisant rouler, tandis que tirer consiste à envoyer sa boule taper sur la boule adverse pour la dégager. Et si on arrive à la placer, ça s'appelle un carreau. Bref, moi, spontanément, j'ai plutôt tendance à pointer. Donc j'ai fait quelques mènes avec Fabrice, trésorier de la MPS 20, et je me suis pas trop mal défendue, j'ai pas fait Fanny quoi. J'ai même mené 4-0 avant de comprendre une règle de base à la pétanque, rien n'est gagné d'avance. Pour parfaire ma technique, qui finalement ne pouvait que s'améliorer, j'ai eu le droit à quelques conseils pour apprendre à tirer. Écoutez Fabrice.
Faut que tu te concentres sur celle-là, vraiment sur celle-là.
J'ai été entraînée à taper plein fer, soit enlever une boule sans toucher le sol. Pas évident au début, car j'ai vite compris qu'il fallait qu'un savant dosage de placement de bras, de jambes, tout en faisant attention à quel moment lâcher la boule et comment la faire tourner. Tout un art, enfin écoutez, ça a fini par payer. Maintenant que vous commencez à saisir que la plus grosse pétanquix de la planète est capable de tirer une boule après seulement une heure de cours particulier, imaginez ce que pourraient faire les jeunes espoirs en 2024. Puisqu'officiellement candidate pour les Jeux Olympiques depuis maintenant 2 ans, la pétanque s'est organisée avec la boule lyonnaise et la Rafa Boce pour former la Confédération mondiale des sports de boules et proposer la candidature d'un seul et même sport décliné en 3 disciplines. J'ai donc glissé mon micro auprès de quelques joueurs pour savoir ce qu'ils pensaient de la pétanque au JO. Alors il y a ceux qui pensent aux médailles, bien sûr, comme Daniel Louveau, président de la MPS 20.
On n'a pas été champion du monde je ne sais combien de fois, ni champion d'Europe, pour rien.
Et il y a ceux aussi qui pensent au pays, comme Fabrice, qui a ouvert d'ailleurs son propre club, Boule et Bib à Maison Alfort.
Ah bah c'est exceptionnel. En France, la pétanque, c'est le sport, on va dire, mythique des Français. Hein. Tout le monde connaît la pétanque, c'est un peu comme le vin.
Eh bah ouais, c'est du patrimoine. Alors autant vous le dire, je ne suis pas la plus grande partisane des JO à Paris, mais s'il y a la pétanque, alors là, ouais, j'en veux.
Et ces épreuves de pétanque, elles se joueraient où en 2024 ?
Eh bien, malheureusement, c'est là où le bât blesse, car actuellement, sur toute l'Île-de-France, il n'y a que 8 terrains couverts et c'est au Boulodrome d'Issy-les-Moulineaux. Alors, on a l'air un peu en retard en termes d'infrastructure, d'autant que Laurent Vessière, président du club d'Issy, m'expliquait que la pétanque est pourtant le troisième sport le plus diffusé en France, après le foot et le cyclisme. Et les téléspectateurs seront au rendez-vous, comme le confiait Dylan Rocher à Sportmag lundi dernier. Je cite « Les téléspectateurs sont à chaque fois très nombreux », évoquant ici les Masters de l'été, mais aussi les trophées qui se dérouleront... Les trophées des villes, pardon, qui se déroulera, prenez date, du 23 au 26 novembre prochain. Je vous laisse donc imaginer ce que permettrait la création d'un boulodrome de 64 pistes couvertes que la ville de Paris ambitionne de construire. Et à ce propos, Boris Vasseau, où en est ce projet ?
On l'a voté au Conseil de Paris, le vœu de le faire. Après, il faut trouver le terrain. 64 pistes, c'est très grand. Une couverture, ça coûte un peu cher. Mais c'est vrai qu'il y a des besoins, clairement, de pétanque couverte. Il y a énormément de terrains qui ne sont pas couverts. Et la pétanque à Paris, c'est... ça touche tout le monde, les jeunes, c'est un sport qui devient bobo, les vieux évidemment, les communautés maghrébines, portugaises. Voilà, donc nous on essaiera de. On veut essayer de faire la Marseillaise à Paris, mais bon.
C'est sûr,
mais c'est dans pas longtemps, je vous assure.
Ça va faire plaisir aux Marseillais. Flore Magnier, le parcours sport olympique, on peut l'imaginer dans les années à venir ?
Eh bien, c'est ton projet. Ça dépend. Enfin,
c'est une envie aussi.
C'est pas forcément une envie pour tout le monde. La communauté du parcours, eh bien, elle est assez large. Il y a ceux qui veulent avoir une compétition et ceux qui veulent plus rester dans le milieu naturel ou sans du moins sans compétition. Mais ça peut être envisagé, on verra.
Justement, je vais profiter de la transition pour parler un peu plus en profondeur du parcours. Alors, on en parle beaucoup depuis le début de l'émission, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les grandes lignes de ce qu'est ce sport ?
Les grandes lignes du parcours. C'est un sport, un art du déplacement. L'idée du parcours, c'est se déplacer dans le milieu urbain et de manière efficace. C'est-à-dire que, à l'origine, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus efficacement possible, donc le plus rapidement possible. Et maintenant, ça tend à être aussi un peu plus artistique. Donc, il y a notamment le free run qui rentre en cause. Donc de plus en plus fluide, où on va chercher l'enchaînement des mouvements et du coup l'efficacité.
La beauté du geste.
Voilà, exactement, la beauté du geste. Et donc l'efficacité tend un petit peu à être revue, mais il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire autant plus avec des acrobaties donc qui consistent avec le freerun, et le parcours qui est plus...
Sportif. En préparant le sujet, j'ai vu beaucoup de mots et vous les avez évoqués, philosophie et art. Associé au parcours, ça veut dire que cette discipline, en fait, c'est un peu une façon de vivre.
Exactement. C'est la communauté du parcours, comme je disais, elle est très très vaste et grande et très belle. C'est une façon de vivre parce que le parcours porte énormément de valeurs, qui sont le non-jugement, qui sont la sécurité, qui sont le respect d'autrui, le respect de soi-même, le respect de l'environnement dans lequel on évolue, qui sont aussi la confiance. La confiance quand on est amené à évoluer pour par exemple faire un saut qui nous terrorise, eh bien on a confiance en ses partenaires et tout ça fait la force du parcours et donc c'est porteur de valeurs c'est ce qui est beau dans cette communauté.
C'est intéressant parce que vous dites qu'on a un besoin de confiance en ses partenaires. Et nous, effectivement, on était dans le même état avant de préparer cette émission, à savoir avec un degré de connaissance du parcours assez restreint. Donc on s'est renseigné, on est allé sur Internet et on voit beaucoup, finalement, des gens courir seuls, en fait. On n'imagine pas qu'il y a une présence de partenaires autour pour motiver, pour assurer la sécurité, pour accompagner aussi, pour courir en groupe.
Bah, de manière générale, c'est quand même mieux d'aller... On appelle ça tracer quand on va faire du parcours. Donc c'est quand même mieux d'aller tracer avec pas seul en fait. Parce qu'on n'est jamais à l'abri du risque. Mm-hmm. On nous prend souvent pour des têtes brûlées. C'est-à-dire,
oui, c'est un peu ça le truc. Moi, la question que je me suis posée en préparant l'émission aussi, c'est quand je regarde ces vidéos, je me dis, est-ce que vous préparez le parcours,
pour, bien
si
sûr.
Je puis dire, en amont, puisqu'on a l'impression vraiment que c'est improvisé, genre je saute là, tac, tac, et puis voilà, j'ai traversé un mur, j'ai sauté un vide de 30 mètres, et puis...
Mais oui, mais en fait, c'est que souvent, ces vidéos qu'on voit sur Internet, on n'imagine pas tout ce qu'il y a comme travail en amont. C'est le haut de l'iceberg qu'on voit, et donc forcément, il y a de nombreuses heures avant d'entraînement qui sont... on va pas se jeter dans le vide comme ça, sans conscience. Au contraire, on va répéter, on va répéter, on va répéter. Et quand on le sentira, on pourra le faire. Et souvent, on va être... On sera entouré de personnes avec qui on a confiance, en qui on a confiance.
Et c'est intéressant, justement, comment on s'entraîne au parcours tout bêtement. Quelles aptitudes physiques on doit développer? Est-ce qu'on doit s'entraîner à sauter loin, à être forcément costaud, je sais pas, des bras, des jambes? Est-ce qu'il faut être endurant? Et surtout, comment on répète, par exemple, pour un saut, comme on peut le dire, un saut qui peut être impressionnant? Est-ce qu'on le reproduit au sol, à échelle, et on essaye de voir qu'on peut le faire? Comment on travaille tout ça?
Ben, comme tout sport, il y a des bases. Il y a des bases qui vont être, je vais rentrer un petit peu dans le milieu technique, mais qui vont être l'amorti, qui vont être...
Savoir bien retomber une
exactement.
Fois qu'on a sauté.
Oui, tout à fait. Pour éviter de se faire mal, en fait, clairement, parce que le parcours, tout le monde en fait, en fait. Tout le monde en a fait.
C'est réservé à tout le monde ?
C'est possible. Tout le monde peut en faire, en fait. Mais en tout cas, tout le monde en a fait un petit peu quand il était petit. C'est-à-dire que sauter un petit peu partout, grimper, tout ça, ça fait partie un petit peu du parcours. Et donc les bases, c'est ce qu'on fait apprendre, c'est bien se réceptionner. Et une fois qu'on a les bases, eh bien on peut commencer à évoluer, on peut commencer à ressentir son corps. Parce que c'est très très important de se sentir soi dans son corps et d'avoir confiance en soi, en ses capacités. Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est avant de faire un saut à 30 mètres, eh bien, on le répète au sol. Et on y va progressivement, en fait. Et c'est comme ça qu'on fait.
C'est un sport d'extérieur, c'est un sport urbain.
Oui.
Tout à l'heure, vous parliez, Boris Vasseau, du Central Park de Châtelet, qui est un espace couvert. C'est pas un peu frustrant de faire cette discipline en intérieur ?
Alors, il y a toujours
Il y a les pour et les contre à chaque fois.
Voilà, exactement. Il y a toujours les pour et les contre.
Votre avis ?
Mon avis, c'est que le parcours, c'est un sport d'extérieur. Et du coup, les infrastructures intérieures vont être là pour permettre d'évoluer, mais à partir du moment où on a une base en extérieur. C'est un sport en extérieur, donc à partir du moment où on commence à découvrir ce sport en intérieur, après on se dit mais pourquoi le faire en extérieur, je vais me faire mal, et en fait pas du tout. En fait l'approche est complètement différente, parce que quand on évolue dans en intérieur, on se dit vas-y, il y a les tapis, je vais pas me faire mal, sauf que d'accord, on peut lancer peut-être plus de choses, des choses plus impressionnantes. Mais après, qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur, puisque de base, c'est quand même un sport en extérieur.
Boris Vasseau.
Ouais, ce qui est intéressant pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Florent, c'est comment on a créé Central Park. C'est pas venu d'une lubie de la Dijon Sport. On avait un espace sportif dans les halles, et au lieu de créer classiquement un gymnase comme on sait le faire, un dojo ou une salle de badminton, on a demandé au conseil municipal de la jeunesse qui voulait mettre là-bas. Et on leur a vraiment dit voilà, qu'est-ce que vous voudriez. Et ils ont décidé de faire du parcours. Il n'y a aucune salle de parcours, enfin en tout cas gérée par une mairie en France. Et on s'est dit, on y va. On ne savait pas faire, on n'avait aucune compétence. Du coup, on a demandé aux associations, il y a Epping Parcours, il y a la Free Run Family, il y a plusieurs disciplines dans l'art du déplacement. Donc il y a beaucoup d'associations, donc on a essayé de les réunir, toutes les disciplines, et pour leur dire quels agrès on prend, de quoi vous avez besoin. Et voilà, on l'a inauguré il y a 2 ans. Et pour nous, cette salle-là, ça ne remplace absolument pas le travail qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire, on n'a pas à dicter à la discipline ce qu'elle doit faire. Mais ce qui est important politiquement, pour le coup, c'est de faire découvrir sa discipline au grand public. Donc là, c'est dans les halles, il y a une baie vitrée. Tout le monde peut, quand on va à l'UGC, ben voilà, on voit aussi ce que c'est cette discipline-là. Deuxièmement, ça permet aux sportifs, aux associations de s'entraîner, ceux qui nous le demandaient. Que des fois, quand il fait froid, il fait moche, il pleut... On peut s'entraîner au sec à l'intérieur, et surtout, le plus important, c'est d'initier les gamins. Parce que dans le parcours, comme dit Flore, il y a des disciplines, il y a des figures à apprendre. Et du coup, là, on a des profs de Parcours Paris, d'ailleurs, qui apprennent aux gamins, qui, en toute sécurité, c'est ça qu'on a voulu montrer au grand public, c'est qu'il y en a qui peuvent faire peut-être des choses assez dangereuses. Mais la plupart des gens sont formés, ont des coachs sportifs à côté, et ça peut s'adapter à tout le monde.
Flore Magnier, Boris Vasseau, on se retrouve dans quelques minutes. Mais avant cela, le dernier titre de Panama, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Restez à l'écoute du 93.9, on se retrouve dans moins de 4 minutes.
Up, looking down again. Someone to rely on, someone close to rely on. Looking down, 'cause I know what it's like to be known. A step from the top, a step from the top. Looking down again. I see you in the undertow, where the time goes on and I'm so slow. Someone closer to confide in, when the time has been stripped away. Can you hang on, can you keep on hanging on until the summer days? Give me someone to rely on, someone close to rely on. Looking down, 'cause I know what it's like to be known. A step from the top, a step from the top. Looking down, looking down.
Minutes sur Radio Campus Paris, c'était Under Two de Panama. On continue de parler de la ville comme terrain de sport dans quelques minutes avec nos invités. Mais avant cela, Elodie va nous prouver que le sport n'est pas incompatible avec la vie, la culture. Ah, normalement, il est bon.
Allez, Faguero !
Tête de vainqueur.
Allez, petit ! Félicitez, oui !
Radio Campus Paris 93.9.
Culture, virgule, c'est à peu près pareil. L'actu sport et culture listée en 3 minutes, c'est avec toi Elodie.
Trois propositions pour ce soir Thibaut. Et pour cette première chronique de l'année, on démarre avec un thème qui me tient beaucoup à cœur. Il a été résumé en une question par le philosophe et critique Gilles Deleuze, s'il vous plaît. Fondamentalement, qu'est-ce qui différencie un public de théâtre et un public de radio? Je veux dire hormis la tenue vestimentaire. Pas grand-chose, si l'on en croit le metteur en scène Mohamed El-Khatib. Son spectacle Stadium est à la colline jusque demain soir. Il évoque le comportement des passionnés, du football, du théâtre. Pas d'artistes sur scène, ou alors d'une toute autre sorte.
Le spectacle est construit autour d'une soixantaine de supporters du Racing Club de Lens. Et pour leur déplacement à Paris, ils assurent une belle rencontre. À la place des personnages de théâtre, on découvre leurs anecdotes, leurs rituels, qui ressemblent étonnamment à ceux des publics de théâtre. Le spectacle est en tournée en région parisienne jusqu'au 17 novembre. Saint-Germain-en-Laye, Tremblay, Colombes. Avant de partir en province, toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook de Tête de Vainqueur et le site radiocampus.org. Après le public de théâtre, les cinémas et les livres. On se souvient des Yamakasi, dont s'est inspiré Luc Besson en 2001 pour écrire son film homonyme, aux 2,1 millions d'entrées. Alors les collectifs à la source du parcours, sujet évoqué ce soir, ils étaient déjà en lien, certains samouraïs urbains, avec le cinéma, puisqu'ils ont beaucoup exercé le métier de comédiens, de cascadeurs. Ceux qu'on appelait autrefois les traceurs avaient gagné leur notoriété lors d'un reportage de Stade 2 en 1997. Deux livres tracent aujourd'hui cette époque. Peut-être vous les connaissez.
Que c'est David Bell ?
Oui, en effet. Le plus récent est coécrit bien sûr par David Bell, mais également par Charles Perrière, qui faisait partie de ce collectif. Le titre « Parcours des origines à la pratique » paru en 2014. Il donne un aperçu bien documenté avec des photographies de ce qu'est ce sport, cet art de la ville. Ils le défendent comme ça. Ils reviennent notamment sur l'histoire très particulière de ce collectif et ils présentent dans le manuel les figures, les déplacements, les sauts. Donc vous avez un peu évoqué la question, est-ce que juste avec le manuel, on peut démarrer tout seul la pratique du parcours ?
Je l'ai très vite fait feuilleter ce manuel. Après, c'est rigolo parce que les noms qu'ils utilisent, tout le monde utilise des noms différents de sauts. Et je pense que oui, on peut en faire. On peut débuter avec ce livre.
C'est ce qui est défendu, en effet, une pratique démocratique, gratuite. Et l'arrivée du succès à l'époque avait aussi créé une fracture portée par la figure de David Bell, qui se revendique l'initiateur du parcours et surtout détenteur de la philosophie. Donc c'est l'acteur principal des films Banlieue 13 et Banlieue 13 Ultimatum, également créé et produit par Luc Besson. Dans son livre, à lui tout seul, Parcours, paru en 2009, il revient sur sa version de l'histoire. Il développe autour des concepts que vous avez évoqués, qui sont la clé de la philosophie de ce sport, la persévérance, le respect, la maîtrise et le dépassement de soi, avec pour objectif de développer sa liberté dans le milieu urbain, dans les murs en béton. Enfin, et c'est très intéressant, il associe à l'émergence du parcours la figure de son père, Raymond Bell, ancien pompier de Paris, athlète de formation militaire. Alors ces portraits croisés de David et de son père, on en pense ce qu'on veut, mais ça donne une vision intime et assez touchante de ce que peut représenter ce sport.
Merci beaucoup Élodie.
Tête de vainqueur.
On va parler jusqu'au bout, Marie-Jo. Cathy Privat n'est pas encore battue. Elle se bat. Marie-José Pérec se détache. Marie-José Pérec rentre dans la légende. Champion de la vie.
Champion olympique de Radio Campus Paris.
Elles sont belles, nos nouvelles virgules. C'est moi qui les ai faites. Boris Vasso, Flore Manier, on continue de parler de sport et ville. Quelle est la politique, Boris Vasso, de la ville de Paris vis-à-vis de la pratique sportive en extérieur d'une manière générale ?
On essaie déjà de la comprendre. On a fait, par exemple, on a travaillé avec Sport Heroes, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont fait un magazine Running Hero Society et en fait ils collectent toutes les données des applis de runners et du coup on a pu regarder le comportement des 300 000 runners à Paris.
Ah, vous interprétez les data aussi pour vous baser dessus?
C'est un truc qu'on va sortir là dans un mois, qu'on a fait faire, enfin qu'on a un petit peu demandé de faire et on les a payés. Mais voilà, il y a le comportement de 300 000 runners à Paris, le soir, le matin, quand t'es un homme, quand t'es une femme, quand t'es jeune, quand t'es vieux, quand t'es pratique, quand t'es un super sportif, quand t'es un sportif du dimanche, en hiver, en été. Et du coup, nous, ça nous interroge énormément sur là où on doit mettre le paquet sur running. Donc on est, on analyse, deux, on écoute évidemment tout ce qui est en train de se créer, bike polo, comme on parlait en début d'émission, et voir comment on peut...
C'est l'ingénieur, là.
Oui, c'est assez confidentiel quand même, mais c'est vachement bien. Mais voilà, on essaie de d'écouter les pratiques du running, du skate, du roller, du slackline, etc., et de voir comment on peut aménager l'espace urbain. Et on n'est pas dans une logique hyper à tout enfermer, au contraire, on a une logique plutôt à s'adapter à comment ça existe maintenant, et comment on peut aller plus loin, et comment on peut faciliter la vie des gens, tout simplement.
Autre initiative, justement, qui peut faciliter la vie des gens, c'est la mise en place d'activités sportives. C'est notamment le cas pour les seniors, des cours gratuits, c'est ça ?
Ouais. On fait pour Senior Plus, il y a 5000 seniors à Paris qui peuvent avoir des cours gratuits dans nos gymnases, quand ils ne sont pas hyper occupés en journée, par exemple. Le soir, c'est tous nos assos. Et on fait des cours gratuits pour les seniors, on fait beaucoup pour les scolaires, évidemment. Et là, on va essayer de faire dans les 7 places, on va rénover 7 places à Paris. Il va y avoir dans ces places-là beaucoup plus d'espace pour les piétons et aussi des lieux où il pourrait y avoir de la culture. Il peut y avoir du théâtre, mais aussi il peut y avoir des cours de yoga, de gym. Et on veut faire des cours gratuits tous les week-ends, pas que pour les seniors, pour tout le monde du coup, avec nos coachs de la ville de Paris. Voilà, c'est un projet qu'on a pendant un an ou deux.
Et il y a aussi beaucoup de mise en place dans les parcs et les squares de la capitale de machines de sport. Ça ne crée pas une petite dissension un petit peu avec les salles de sport très nombreuses déjà à Paris ?
Non, elles ont leur business. Hein. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui peuvent payer sont plus contents d'avoir un truc un peu plus performant en salle. Là, on a des agrès sportifs. Alors, on n'arrive pas à trouver de nom différent qui n'est pas très funky, mais on les met au parc de Bercy. On les met, je vous dis, le long du canal. On en a une dizaine de spots comme ça à Paris, beaucoup dans les jardins. Et là, c'est accessible pour tout le monde.
Et ça commence à se développer ?
Ah, mais il faut à fond. Enfin, notre but,
ça fait partie de, oui, de l'objectif de Paris ?
Ah, mais complètement. On a... Dans le cadre des Jeux Olympiques, on ne va pas juste bien organiser les Jeux Olympiques en 2024. On veut que le sport soit un levier pour changer un peu nos politiques publiques. Et dans une de mes responsabilités, en tout cas un des grands enjeux de la maire de Paris, c'est de faire justement de Paris un terrain de jeu et de sport à ciel ouvert. Et du coup d'avoir un équipement en accès libre, gratuit pour tout le monde à moins de 5 minutes de chez soi. Donc maintenant, il faut savoir où on est bien. Dans les parcs et jardins, c'est génial parce qu'il n'y a pas de bagnole. Et sinon, dans la rue, comment on fait de la signalétique running et comment on incite les gens à aller dans la rue en maximum de sécurité. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Ça, comme je vous ai dit, ça permet de reconquérir l'espace public, ça permet d'avoir des usages positifs de l'espace public. Ça permet surtout à tout le monde d'utiliser le sport, pas seulement pour la santé, mais aussi pour son bien-être, tout simplement.
On parlait justement de sécurité, on parle de running dans les rues. Un autre sport qu'on pratique autant pour le sport que comme un moyen de locomotion, c'est le vélo, tout simplement, à Paris. Comment on s'adresse aussi, est-ce que vous réfléchissez aussi à la façon dont on s'adresse aux automobilistes, d'un point de vue de la sécurité, pour qu'on puisse développer un peu l'attention qu'on peut porter aux gens qui pratiquent le sport dans la rue ?
Comme je vous dis, un des gros enjeux de Paris, c'est cet espace public qui est occupé par tout le monde. Évidemment, il y a de la place pour les autos. On essaie de le réguler, mais on ne va pas interdire les autos à Paris. Donc déjà, on sécurise les voies de vélo. On en a beaucoup entendu parler en cette rentrée.
Ah oui,
parce qu'on a un enjeu très fort de plan vélo, de mettre justement des voies de cyclistes encore plus et sécurisées, parce que c'est un des moyens de locomotion qui est évident dans l'avenir. Et après, vis-à-vis des automobilistes, on est obligé de réguler. C'est-à-dire qu'il y a des voies où on va pouvoir réduire la vitesse à 15 km/h. Donc c'est vrai qu'on s'adapte sa vitesse, mais ça permet justement à tout le monde d'avoir sa place et pas mettre en danger à la fois les cyclistes, mais aussi les automobilistes et les piétons.
Mais ça, est-ce que du coup, ils sont plutôt réticents, ouverts à ça, les automobilistes ? C'est compliqué ou ça se fait plutôt bien comme dialogue ?
On a vu que ça se passait pas si bien que ça. On ne veut pas entrer dans une guerre. C'est clair qu'on veut qu'un usage soit adapté pour tout le monde. Par contre, c'est certain qu'on ne veut pas qu'à Paris, il y ait une autoroute qui passe au milieu de Paris. Et ça, ce n'est pas l'enjeu des villes. Et comme dit toujours la maire, après, dans les années à venir, ces maires-là rendront compte parce qu'il y a des milliers de morts par jour par la pollution. Donc, on sait que la bagnole est une des manières de polluer, pas la seule, évidemment. Et donc, on essaie de réguler les choses. Et on essaie de le faire moins un esprit guerrier, mais vraiment pour dire il faut la place, il faut réduire la circulation à Paris, c'est une évidence pour la santé publique. Et on développe surtout nous tous les modes alternatifs, le vélo, le tramway, et puis après j'arrête de parler.
Et économiquement, le sport gratuit à Paris, ça coûte combien ?
Pardon, j'ai pas écouté.
Le sport gratuit à Paris, ça coûte combien ?
Ça coûte zéro.
Flore, vous êtes d'accord avec la politique de la ville là-dessus ? Vous trouvez qu'il y a une amélioration ?
Oui.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, voilà, comme il disait, de parcs qui s'ouvrent. Je pense au Street Workout. Il y a plein de structures qui poussent comme des champignons. Et c'est agréable de voir ça, de savoir qu'il y a de plus en plus de structures qui sont mises à disposition de chaque citoyen et qu'on les utilise comme on l'entend.
On continue de parler de sport dans quelques instants et de musique aussi, puisque Erwan s'est posé des questions, mais c'est aussi un chroniqueur expert.
Tête de vainqueur, l'émission sport de Radio Campus Paris. Un vendredi par mois, 20h.
Encore une belle virgule. Oh là là, fan de sport, fan de football, mais aussi de rock, pas forcément celui de Johnny. Erwan, tu es parti sur les traces de l'un des chants de supporters les plus populaires en Argentine pour ta chronique sportive et musicale.
Exactement, Thibaut. Aujourd'hui, on va plonger de souvenir en souvenir, remonter le fil des chants et de la musique pour s'immerger au cœur de la rivalité entre les Brésiliens et les Argentins. Pour commencer, on va revenir en juin 2014. On est en plein mondial de football au Brésil. Les Argentins affrontent la Bosnie au mythique stade du Maracanã. Et avant, pendant, après le match, les Argentins scandent à tue-tête un chant qu'on ne leur connaissait pas jusqu'à présent. Alors vous ne parlez peut-être pas espagnol, rassurez-vous, moi non plus, heureusement j'ai Google Trad chez moi. Et dans ce chant, les Argentins moquent la façon dont le Brésil est arbitré à domicile, rappellent également de bons souvenirs à ses rivaux comme la fameuse victoire de l'Albicéleste sur les Brésiliens en 8e de finale de Coupe du Monde 90 en Italie, avant de scander deux affirmations qui ne manqueront pas de rendre furieux les Brésiliens. Messi va nous ramener la Coupe du Monde et Maradona est meilleur que Pelé. Un avis autour de cette table, Thibaut, Maradona, Pelé.
Griezmann.
C'est la mauvaise réponse, c'est la même la pire réponse qu'on pouvait donner. Mais si le chant est lui nouveau, l'air ne date pas d'hier, et pour en savoir plus, il faut remonter à une époque où le rock n'était pas has-been, à mon grand regret, les années 60 avec le groupe américain Creedence Clearwater Revival qui en 69 chantait ça. Bad Moon Rising, un rythme blues rock entraînant pour des paroles pourtant assez sombres, une des chansons qui a marqué l'histoire de la musique américaine sans que je sois vraiment capable de comprendre pourquoi, moi qui n'ai jamais trouvé d'intérêt dans la musique de Creedence malheureusement. Mais plus qu'aux États-Unis, la musique de Creedence a rencontré un certain succès en Amérique latine, au Brésil et en Argentine qui sont des pays avec une grosse culture rock. Ironiquement, beaucoup de chansons de Creedence figurent dans les meilleures ventes des pays d'Amérique du Sud, mais pas celle-ci. Et pourtant, c'est vers ce chant, au début des années 2010, que se sont tournés les Hinchas de San Lorenzo, club de la capitale Buenos Aires, pour en faire un chant festif à la gloire du club. Le rythme et l'air deviennent très populaires en Argentine, et alors là, d'ici 2011-2012, tous les clubs le reprennent à leur sauce, jusqu'à ce fameux mondial au Brésil en 2014, où 8 amis, d'après l'histoire, d'après le mythe, 8 amis seulement, écrivent cette version qu'on a entendue tout à l'heure, destinée à chambrer les Brésiliens sur ce match.
Ouais, parce que les Brésiliens...
Les Brésiliens, finalement, on les chambre pas tant que ça, hein, on les laisse tranquilles. Hein, sur ce match de 90, où une chevauchée de Maradona permet à l'Argentine de faire le hold-up contre le Brésil. Alors ces 8 amis se réunissent sur une plage où il y a plusieurs centaines de fans argentins, ils distribuent les paroles un peu à tout le monde. Il y a un premier temps mort dans le match où ils lancent le chant une première fois, et dès le second temps mort où ils lancent le chant, tout le virage leur prend. Cette année-là, Messi ne leur ramènera pas la Coupe du Monde, mais nul doute que parmi les bleus que garderont les Brésiliens de ce mondial chez eux, le Brésil décimé que se siente est l'un des plus douloureux, même si nos amis brésiliens vont peut-être pouvoir se venger avec les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, Thibaut, puisque
l'Argentine a fait match nul
cette nuit contre le Chili 0-0 et est donc très mal contre le Pérou, pas du tout le Chili, et donc très mal en point pour se qualifier, hein. Ça va être vraiment très compliqué.
Exactement,
pour eux.
Et la France aussi joue demain pour se qualifier. On va revenir au sport dans quelques instants.
Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bateau.
Je suis au courant, je sais ça, ça fait 30 fois, je le sais.
Tête de vainqueur.
Planter du bâton ne marche pas du tout. Mettez-vous bien ça dans la tête. Planter le bâton ne va pas du tout.
Planter le bâton, ouais. Le planter, ouais, bâton, ouais.
Radio Campus Paris 93.9.
Allez, on continue de parler un petit peu du parcours avec notamment une question. Alors, le parcours, c'est une philosophie de vie, c'est toutes ces choses-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut délaisser son vélo, sa voiture ou les transports en commun pour aller au travail le matin, par exemple ?
Pas du tout, pas du tout. Non. Le parcours, enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme un sport. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un running, au lieu d'aller faire un cours de tennis, c'est vraiment du parcours que je vais faire. Donc, évoluer dans le milieu urbain et justement toujours aller plus loin. Tout le monde, toujours se dépenser physiquement et mentalement, parce que c'est aussi très mental le parcours. Du coup, c'est complètement complémentaire avec le skate, avec la trottinette, avec le vélo, avec tout type de transport.
Et vous, le matin, quand vous partez au travail
Trottinette.
D'accord. Et ça vous inspire justement tout ce que vous voyez autour de vous à chaque fois où vous dites « Ah, je pourrais peut-être faire ça. »
Ouais. 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 Alors, pas partout.
Genre là, dans le studio, par exemple.
Là, non. Là, il y a trop quatre murs. Mais oui, souvent. Et d'ailleurs, je pense que tous les pratiquants de parcours ont une autre vision de la ville, puisque on a souvent les yeux en l'air. On regarde un petit peu ce qu'il est possible de faire. Il y a toujours des petits spots, comme on appelle, sur lesquels on peut évoluer, faire des enchaînements, plus travailler la fluidité, le mental. Et du coup, et même bon, aller sur les toits ou quoi que ce soit. Ça, il ne faut pas trop le dire, mais voilà.
En regardant Boris Vasseau.
Non, mais c'est intéressant, mine de rien, cette idée qu'il y a aussi une notion de frisson qui est liée un petit peu à l'interdit qu'on a par rapport à soi, à la peur de sauter, et aussi à l'interdit peut-être de se rendre dans certains endroits et de prendre du plaisir dans certains endroits où, bah, oui, on n'a pas forcément le droit d'aller. Oui,
tout à fait. Et parfois, il y a justement une limite qu'il faut trouver. Et ce n'est pas toujours évident parce que... Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et voilà, la chose est que la pratique est tellement libre qu'au final, c'est à chacun d'être respectueux de là où on va et de savoir où sont les limites.
Et une chose qui m'intéresse dans votre parcours à vous personnel, dans votre pratique du parcours à vous personnel, c'est qu'est-ce que vous allez chercher en termes de limites à dépasser ? Est-ce qu'on va aller chercher plus de hauteur, plus de vitesse, peut-être plus de fluidité? Vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous commencez à tirer, je ne me rappelle plus du verbe.
À tracer.
À tracer, oh, tracer. Mon Dieu. J'ai confondu avec la chronique sur la pétanque.
Moi, c'est vraiment la fluidité. La fluidité que je vais essayer de chercher parce que avec l'enchaînement de plusieurs techniques, ça devient physiquement compliqué. Il faut gérer son souffle, il faut gérer ses muscles, il faut gérer tout ça. Et la fluidité, c'est ce qui est pour moi le plus beau, en fait. Quand on va regarder une vidéo de parcours, ce qu'on va regarder, c'est la fluidité et aussi s'il y a des grands sauts ou quoi que ce soit qui est extraordinaire. Mais moi, c'est vraiment la fluidité qui me fait vibrer, comme vous avez dit.
La fin de l'émission approche, nous entrons dans le Money Time, votre nouveau rendez-vous dans Tête de Vainqueur. Je vais vous poser des questions et vous allez y répondre le plus vite possible, hein, puisque voilà, on va commencer par vous, Flore, et ensuite vous, Boris. Votre meilleur souvenir de sport à titre individuel ?
Titre individuel, le championnat 2014, championnat de foot.
Boris Vasseau ?
Quand j'ai marqué un essai de rugby, quand j'étais gamin, talonneur, et c'est le seul que j'ai marqué en compétition.
La victoire d'un Français au Tour de France dans les 5 prochaines années, possible ou simple lubie ?
Aucune idée.
Vous pouvez passer.
Sûr que oui, évidemment. Bardet ou Pinot.
Ils sont candidats à l'olympisme, la pétanque, l'escalade, le roller ou encore le e-sport, lequel choisiriez-vous ?
Escalade.
Escalade, mais il l'est déjà en 2020.
Avez-vous déjà pleuré de joie pour un événement sportif ?
Non.
Ah oui, carrément, ouais.
Lequel ?
C'est plus lequel. Pendant mais à la télé cas. Facilement.
Où s'arrêtera la France en Coupe du Monde 2018 si elle se qualifie ?
Je passe.
Bah, elle gagne évidemment.
Les Jeux à Paris, bonne ou mauvaise idée ?
Bonne idée.
Très bonne idée, mais il faut la construire.
Votre plus beau moment de sport devant la télé ?
Ça me vient pas.
Marie-José Pérec avec la virgule que vous avez faite.
Merci beaucoup, mètres, Florent Magnier, Boris Vasseau. La ville est donc un terrain de sport. On a pu le voir ce soir, la première manche de Tête de Vainqueur saison 2 est déjà terminée. Oui, le temps passe vite. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Rémi, Erwan, Elodie, Philippine et toutes les équipes de Radio Campus Paris qui ont travaillé sur cette émission. On se retrouve le 3 novembre prochain pour évoquer la génération 2024 à l'approche des Jeux, puisque la ville de Paris sera hôte des Jeux Olympiques. Je pense que cela n'est un secret pour personne. À suivre sur le 93.9, la chanson française avec Très Phasé. Puis à 22h, ne manquez pas les Fesses à l'air avec la sublime Dania entourée de toute son équipe qui nous parle ce soir de la sexualité des étudiants. Très belle soirée à vous à l'écoute de Radio Campus Paris.
Bisous bisous.